Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Caprica. Alors, avant de commencer, est-ce que quelqu'un a vu cette série ou est-ce que je serai le seul ici? C'est ce qui me semblait. C'était, ah si, quand même une personne, super. Mais je vais essayer de recontextualiser, du coup, de bien présenter ce que c'est, puisque je vais vous montrer les 5 dernières minutes de cette fiction qui m'a particulièrement interpellé et qui recèle de nombreuses interrogations, justement, sur ce que peut être, doit être, peut-être, la fin d'une série télévisée. Et toutes les questions aussi liées, justement, au temps. Alors j'ai intitulé ma présentation Caprica, l'esquisse d'un avenir sans lendemain ou la symphonie narrative, parce qu'en fait il y a énormément de choses à dire avec cette fin, donc j'étais un peu hésitant, et je vais essayer de vous expliquer du coup de quoi il s'agit. Vous noterez d'ailleurs, petit souci de présentation, j'ai mis un joli soleil et des nuages derrière un apocalypse complet, mais bon, ce n'est pas très grave, on va l'oublier. Donc Caprica est une série télévisée créée par Ronald Desmours et Rémi Aubuchon. Entre 2009 et 2010, elle n'a connu qu'une saison de 18 épisodes et c'est une série diffusée sur la chaîne de science-fiction américaine Sci-Fi. C'est un spin-off d'une autre série qui, elle, a eu plus de succès et a duré beaucoup plus longtemps, qui s'appelle Battlestar Galactica, entre 2003 et 2009, créée par le même Ronald Desmours et notamment David Haick aussi, qui était elle-même un remake d'une série des années 70, Battlestar Galactica, qui a connu l'équivalent d'à peu près de 2 saisons. Alors, l'histoire de Battlestar Galactica, je suis obligé d'en dire quelques mots puisque Caprica est un spin-off de cette série, c'est le récit dans un univers lointain où les hommes vivent sur 12 planètes et ils ont créé des robots. Et comme dans tous les moments où on crée des robots dans la science-fiction, ça ne se passe pas bien, les robots réussissent à détruire la quasi-totalité de l'humanité. Et la série Battlestar Galactica raconte justement la fuite des derniers survivants humains qui tentent de retrouver un foyer. Caprica, du coup, le spin-off, entend expliquer justement comment cette société a créé ces robots et qu'est-ce qui s'est mal passé, entre guillemets. Donc c'est ça qui va ici nous intéresser. Alors, la série, justement, se passe 58 ans avant la mini-série Battlestar Galactica, puisqu'au début, ça avait été tourné comme une mini-série, puis c'est devenu une série de 4 saisons et de plusieurs téléfilms. Donc la fiction raconte l'histoire, en fait, de 2 familles, la famille Greystone et la famille Adama. La famille Greystone, c'est la famille qui va créer les Cylons, donc ces robots qui vont, quelques dizaines d'années plus tard, détruire la quasi-totalité de l'humanité. Et la famille Adama, c'est une famille importante aussi dans cet univers, puisque l'un des personnages les plus importants de Battlestar Galactica, c'est justement un personnage qui s'appelle Adama, donc le commandant d'un navire. Donc tout ça se passe sur une planète qui s'appelle donc Caprica, dans une ville qui s'appelle Caprica City. Pas extrêmement original sur ce point-là, mais au moins on comprend de quoi il s'agit. Et tout commence dans le pilote lorsqu'en fait un attentat terroriste cause la mort de plusieurs personnes, dont des membres des 2 familles. Et du coup, la série va d'abord raconter un peu comment ces deux familles différentes vont essayer de surmonter leur deuil par rapport au décès de proches lors de cet attentat. Alors, ce qui est intéressant déjà à dire, c'est que Battlestar Galactica était un peu conçu sur, visuellement parlant, en tout cas comme un documentaire, c'est-à-dire filmé d'une manière qui était censé rappeler un documentaire. Caprica va un petit peu reprendre ça, mais va avoir des influences plutôt du côté à la fois de Dallas pour l'aspect soap, et ça a été aussi revendiqué American Beauty de Sam Mendes, que vous connaissez probablement. Et donc c'est les 2 grandes influences de cette série, donc c'est très différent évidemment de Battlestar Galactica, qui est quand même beaucoup plus axé science-fiction. L'histoire de Caprica aussi est intéressante, puisque... En raison du succès de Battlestar Galactica, on décide de faire un spin-off et on le confie au même créateur que la série originale. Mais ça ne va pas très très bien se passer pour plusieurs raisons. Alors si le début de la série Caprica, les 10 premiers épisodes principalement, connaissent un certain succès, il va y avoir une longue interruption en fait de mi-saison qui va se produire entre mes souvenirs sont mars-avril 2010 et octobre 2010. Donc pendant 7 mois, vous allez avoir cette interruption de mi-saison, tout simplement, entre l'épisode 10 et l'épisode 11, ce qui va poser un gros problème, puisque quand la série reprend sa diffusion en octobre 2010, l'audience a chuté, et très rapidement, les décisionnaires, en raison de ces audiences-là, décident de ne pas renouveler la série et de l'annuler. Donc ce qu'il se produit, c'est que le 22 octobre 2010, c'est ça, on annonce clairement que Caprica ne sera pas renouvelé. Il reste alors 6 épisodes à diffuser. Et donc, c'est ce que j'avais ajouté aussi, ça vient aussi principalement d'un changement de créneau horaire. Et en plus, la chaîne avait d'autres plans puisqu'ils voulaient faire un autre spin-off de Battlestar Galactica. Et ils se sont dit, bah, on aura plus de succès avec celui-ci qu'avec Caprica. Mauvaise idée puisqu'en fait, l'autre spin-off n'aura qu'un pilote et ne sera jamais développé au-delà de ce pilote. Donc, pour toutes ces raisons, Caprica va s'achever. Mais, et c'est bien là le problème, lorsque la décision tombe, tout est déjà écrit, tout est déjà tourné. Comment faire, du coup, pour proposer une conclusion narrative à une série qui a été annulée avant que les auteurs puissent tout simplement prendre cela en compte pour achever leur fiction? Alors, c'est évidemment une problématique que beaucoup de séries ont rencontrée, c'est ce qui va m'intéresser. Jason Mitel explique d'ailleurs qu'il faut, distinguer plutôt ce qu'on appelle les épisodes, l'épisode final et le final. L'épisode final serait le moment où ça s'arrête, que ce soit prévu ou non, et le final, l'idée que là, on a eu le temps de l'anticiper, donc de le prévoir. L'épisode dont je vais vous parler porte en plus comme titre Apotheosis, donc l'apothéose, sous-entendu une fin en apothéose, titre bien choisi, même si effectivement la situation est complexe. Il y a 4 personnes à l'écriture, ce qui montre aussi que c'est un épisode qui a été beaucoup remanié ici, dont les deux showrunners principaux et puis d'autres collaborateurs. Le réalisateur s'appelle John S. Pate, qui est un réalisateur principalement de séries télévisées, qui a travaillé notamment sur Aquarius et une autre fiction qui m'échappe ici. Et alors pour la diffusion, là aussi c'est assez intéressant, la série est d'abord diffusée au Canada, donc le 30 novembre, donc l'épisode final. Et aux États-Unis, ça ne se passe pas du tout comme ça, puisque l'idée en fait est de se servir de cette fin pour quand même tirer un peu d'argent de la série. Donc on vend d'abord en fait l'épisode final en DVD. Le DVD sort mi-décembre 2010, c'est ça, le 21 décembre 2010. Et le final est diffusé aux États-Unis le 4 janvier 2011. Donc dans l'idée quand même de essayer de créer un événement autour de cette fin, d'abord en la vendant évidemment, puis ensuite en la diffusant. Alors, ce qui est intéressant avec ce titre aussi, c'est qu'évidemment l'idée d'apothéose suggère qu'on va passer, par exemple, un sujet humain à un statut divin. Donc c'est comme ça qu'on pourrait interpréter ce terme, et on va voir comment dans cette dernière séquence de la série, justement, cette idée-là va trouver un sens clair. Donc la question est la suivante, est-ce qu'on a vraiment affaire à une fin en apothéose alors qu'elle n'a absolument pas été prévue comme telle? C'est ce que j'expliquais il y a quelques instants, l'épisode est déjà écrit, premier problème. Et en plus c'est une problématique double pour Caprica, puisque d'une part il faut donner une conclusion narrative à l'ensemble des arcs posés par la fiction, ce qui est déjà suffisamment compliqué, mais en plus il faut lier cette série à son modèle d'origine qui est Battlestar Galactica. Donc du coup, le gros problème c'est que comparé à d'autres séries, il y a vraiment 2 missions à remplir, là où la plupart du temps, une fiction n'a pas le point numéro 2 à régler. Je vais m'intéresser aux 5 dernières minutes, puisque c'est souvent ce que je fais dans les derniers épisodes de série. J'expliquerai pourquoi après. Voilà ce qui se passe dans le récit, en tout cas dans cet épisode. À la fin de Caprica, ce dernier épisode, l'épisode 18, vous avez en fait un attentat terroriste qui est préparé par un personnage qui s'appelle Clarice Willow. Et son projet est simple, en fait, c'est faire sauter un stade par un attentat suicide, puisqu'elle représente un groupuscule religieux extrémiste monothéiste, puisque nous sommes dans une société qui croit justement au polythéisme. Et donc les extrémistes, c'est inversé, c'est les monothéistes ici. Et elle met en place tout un plan pour que des gens se fassent sauter dans un stade. Donc c'est intéressant aussi parce que ça peut rappeler évidemment des choses beaucoup plus récentes et beaucoup moins amusantes. Et cette séquence du coup se passe vers la fin de l'épisode où son projet d'attentat c'est non seulement que des gens se fassent sauter littéralement dans ce stade, mais en plus elle a prévu de mettre en scène une sorte de paradis virtuel dans lequel les avatars, l'intelligence artificielle de ces personnes, donc de ces gens qui tentent de se suicider, va se retrouver. L'idée c'est de faire croire que si vous vous faites sauter et que vous terminez dans une sorte de paradis virtuel, c'est que vous avez été choisi par un dieu unique, donc c'est une sorte de mise en scène d'un paradis virtuel. Ce plan va tomber à l'eau, notamment grâce à l'intervention des Cylons, qui sont construits justement par l'inventeur qui est Daniel Greystone, donc le père de la famille Greystone, et ainsi l'attentat est déjoué et les Cylons sauvent les gens dans le stade. Alors, je l'introduis puisque c'est un peu particulier. À la base, ça ne devait pas du tout être la fin de Caprica. C'était prévu comme étant ce qu'on appelle un sneak preview, c'est-à-dire un aperçu de la deuxième saison à venir de Caprica. Évidemment, ce n'est plus ça. Là, ça devient la dernière séquence de la série. Et ce n'est plus un aperçu de la seconde saison, mais plutôt de la fin. Et vous allez voir à quel point dans cette séquence, on a l'impression soudainement que tout va très très vite et tout est résolu. Il faut savoir qu'on va voir donc trois personnages vraiment importants dans la séquence. Le premier, c'est Daniel Greystone, l'inventeur des robots, en interview. Ensuite, vous allez voir le personnage de Joseph Adama, donc le père de l'autre famille, ici dans une cérémonie familiale. Et enfin, la chef des terroristes, donc Clarisse, qui va faire un discours dans cette séquence finale. Ce sont donc les trois personnages les plus importants de la fiction qui sont bien sûr au cœur de cette séquence finale qui dure à peu près 5 minutes. Alors, évidemment, pas mal de choses à dire sur cette séquence qui était donc à la base pensée comme une sorte de teaser de la prochaine saison qui a été quand même retravaillée et remontée pour correspondre à cette fin qui dure à peu près 5 minutes. Alors évidemment, ça débute par une ellipse importante et il annonce avec un titre « The Shape of Things to Come », c'est-à-dire un aperçu de l'avenir. Et cette formule qui est associée à la science-fiction à plusieurs choses, donc on peut penser à Wells qui a un ouvrage intitulé comme ça où il s'intéresse justement à l'avenir des sociétés humaines en 1933 jusqu'en 2016. C'est aussi une expression qui se retrouve dans la série originale Battlestar Galactica qui est à la fois le nom d'un thème musical mais qui est aussi une phrase récurrente qui est employée à propos justement de la fin de Battlestar Galactica. Donc cette espèce d'avenir à voir, c'est voilà, clairement c'est réflexif et ça nous renvoie à tout cet héritage-là. Au-delà de cela, ce qui se produit dans un premier temps, c'est ce que qui a été très bien présenté d'ailleurs ce matin, c'est ce que j'appelle une déformulation. C'est-à-dire que à un moment donné, la fiction, pour nous faire ressentir l'imminence de sa fin, c'est-à-dire qu'on y est, ça y est, ça va s'achever, elle opère quelque chose de complètement nouveau, qui est qu'elle explose littéralement le cadre dans lequel la formule l'a retenue prisonnière. On pourrait prendre la métaphore du train, voilà, qui est sur des rails, et puis qui subitement se met à dérailler, et vous avez un accident qui produit une explosion gigantesque. C'est un peu comme ça qu'il faudrait le voir. Et ça se produit, enfin ça se reconnaît notamment à la capacité d'une série à soudainement faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Parfois d'un point de vue esthétique, musical, d'un point de vue du montage, des plans, des thèmes abordés. Évidemment, tout ça va conduire à l'impossibilité de se poursuivre. Ici, en gros, en 5 minutes, il se passe plus de choses qu'en 17 épisodes dans Caprica. Vous avez une somme d'informations qui vous est donnée, qui va esquisser à la fois la fin, l'avenir aussi, qui va connecter ainsi la série à Battlestar Galactica. Donc c'est ça qui est intéressant à voir, c'est justement... Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui change? Alors d'un point de vue déjà des événements, c'est le rythme. Vous vous en êtes probablement rendu compte. Un montage à la fois parallèle et alterné qui va nous faire passer dans plusieurs scènes avec des groupes d'individus et qui à chaque fois vont nous donner des informations qui vont conduire à l'un des derniers passages où vous voyez cette femme émerger d'une sorte de baignoire. En fait, dans le récit, ça correspond à quoi? Depuis le début, le personnage de Daniel Greystone essaye de ramener sa fille à la vie. Et il va finalement y arriver en transférant son avatar numérique dans un corps qu'il a recréé, un corps robotique. Et ainsi, c'est la résurrection de sa fille. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler la crise de la série, c'est-à-dire c'était le but de Daniel à travers toute cette fiction. Tant qu'il n'avait pas atteint ce but, la série pouvait se poursuivre. Avec le réveil de sa fille, ici, incarnée par un corps mécanique, clairement, la crise de la série est abolie et du coup, la série peut s'achever. Ce qui m'intéresse du coup dans cette idée de déformulation, c'est évidemment l'idée d'une rupture complète avec ce qu'on a l'habitude de voir et ce que ça va nous évoquer. Mais au-delà de ça, puisque la déformulation, ça s'applique je pense clairement à cette fiction, mais il n'y a pas que ça à analyser, moi ce que je trouve passionnant vraiment dans cette séquence, c'est une forme aussi d'esquisse de ce qu'aurait pu être la série. Et j'ai pas vu beaucoup en fait de finales, mais là vous pourrez peut-être m'aider après sur cette question, qui ont esquissé comme ça le potentiel d'une série qui pouvait encore avoir tant d'histoires à nous raconter, justement. Et c'est exactement ce qui se produit ici. Et alors, Jason Mitel en parle très bien, il y a aussi beaucoup de travaux là-dessus, on l'a vu à travers différents exemples, mais c'est une séquence qui est méta-réflexive, méta-fictionnelle, qui va parler au spectateur. Il y a un double discours évident, on va parler à la fois de la télévision, du spectateur, de la place de la fiction dans nos vies. Je vais essayer de vous expliquer cela. Alors d'abord, la séquence commence avec une interview télévisée entre le personnage de Daniel Greystone qui va expliquer justement quelle place occupent maintenant les Cylons dans la société depuis qu'ils ont sauvé justement et prévenu cet attentat qui a été évité quelques années auparavant. Et on voit que les Cylons sont utilisés comme des outils, c'est ce qu'il explique d'ailleurs dans cette séquence. Les deux personnages qui regardent l'émission depuis un canapé, c'est donc sa femme que vous voyez ici avec des lunettes et sa fille. Vous me direz comment ça se fait que là sa fille ressemble à une humaine. En fait, tout ça se passe dans un monde virtuel, c'est-à-dire que dans Caprica, ils ont mis au point une technologie qui vous permet, en mettant une espèce de lunette devant vos yeux, d'atteindre une sorte de monde virtuel dans lequel, justement, eh bien, vous pouvez vous amuser, faire plein de choses. Et le personnage de Zoé, donc la fille que vous voyez ici sur ce canapé, au début de la série, elle visite régulièrement ce monde, et ce monde a sauvegardé justement une trace de ses visites, un avatar d'elle-même, une intelligence de ce qu'elle a fait dans ce monde-là, et c'est comme ça qu'on peut la retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, justement, les deux personnages qui regardent cette émission sur un canapé, ils sont dans le monde virtuel, jouant sur un effet vraiment d'opposition avec nous, sur notre canapé, en train, évidemment, de regarder la série. Donc, il y a évidemment une réflexion sur cette question-là et sur la place du spectateur, du téléspectateur, très exactement, ici, dans cette séquence. C'est assez intéressant et c'est assez bien vu, je trouve, sur ce domaine-là. Par ailleurs, les phrases que prononce Daniel m'apparaissent aussi tout à fait emblématiques. L'une des phrases clés, je crois, de ce passage, il dit à un moment donné « tout a changé en un instant ». Ce qui vient exactement de se passer dans la série, en un instant, on avait fait une ellipse de plusieurs années et la série est en train de se déformuler. Ensuite, il explique ceci, il dit « il n'y a aucun moyen de savoir ce qui nous attend ». C'est exactement ce qui est en train de se passer. J'avance un petit peu dans la phrase et il dit « après ça, c'est un territoire inconnu, undiscovered country ». Et je crois que c'est cette idée-là qui est fondamentale dans cette séquence, c'est-à-dire cette idée de territoire inconnu dans lequel sont enfermées un certain nombre de séries qui n'ont jamais pu se finir et qui sont prisonnières justement de cette espèce d'inconnu qui est évoquée ici. Et en même temps que cette séquence justement pose ce problème-là, elle tente d'y apporter une réponse, ce que je trouve tout à fait passionnant et très très intéressant. Donc cette idée effectivement qui est reprise ici de territoire inconnu que j'ai placé juste ici. Et puis, il y a tout le monologue de la terroriste Clarisse, qui commence son monologue en s'adressant donc à ses robots, en leur posant la question « Est-ce que vous êtes en vie ?» Et elle y répond en disant « Vous êtes en vie parce que vous vous posez la question. » Et je crois que c'est à la fois là aussi toute une réflexion sur, évidemment, le thème de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça veut dire être en vie, mais c'est aussi une réflexion sur les personnages de fiction, justement, et leur place qu'ils occupent dans la vie de tous les téléspectateurs. Puisque il y a de nombreuses études qui ont prouvé de manière très intelligente que d'un aspect cognitif, on ne fait pas la différence entre des personnages réels et fictionnels. Donc on peut avoir des émotions très très fortes, même si on le sait que s'ils n'existent pas, mais notre ressenti ne fait pas la différence sur ces questions-là. Et je trouve que du coup, c'est ce qu'évoque justement cette séquence finale, en ayant cette espèce d'accumulation de moments qui évoque cette fin de série. Et puis, l'autre but donc, que j'évoquais, c'était mettre en marche la tragédie, c'est-à-dire relier les deux fictions. Alors, évidemment, quand on ne connaît pas ces œuvres, on ne voit pas exactement comment elles sont reliées, je vais vous l'expliquer. Première chose, c'est l'enfant qu'on voit avec le personnage de Joseph Adama, qui est prénommé Bill, qui est en fait, du coup, le personnage principal de Battlestar Galactica, qui est ici enfant. Et évidemment, tout de suite, il y a une connexion qui s'opère. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que l'enfant qu'on voit ici, dans cette scène, n'esquisse absolument aucune émotion, seulement sur la fin quand il se met à sourire, pour essayer de mimer clairement l'attitude qu'on peut connaître du personnage justement de William Adama dans la série Battlestar Galactica. Et tout de suite, la connexion se fait justement par rapport à ça. Voilà, cet enfant prend ce nom, on l'associe, donc il y a une connexion. Et puis, il y a cette idée de résurrection qui est omniprésente dans Battlestar Galactica et qui ici se retrouve tout à la fin de cette séquence quand ce personnage émerge de cette baignoire et du coup reprend vie littéralement. C'est intéressant puisque c'est justement toute une séquence qui achève une série et dont le thème et le motif principal, c'est l'idée de résurrection. C'est l'idée du coup que la fin n'est jamais vraiment la fin. La fin, d'ailleurs, c'est ce qui était prouvé avec 24, puisqu'on parlait des suites, des spin-offs, etc., c'est que la question de la fin, en fait, elle est très rarement absolue. On pourrait parler de Twin Peaks, qui reprend dans quelques mois après 25 ans. Enfin, on ne peut pas être catégorique. Et donc, cette idée-là, je crois qu'il faut donc pleinement nuancer, elle est brillamment, je trouve, évoquée par cette séquence finale de Caprica, qui semble aussi nous parler, justement, de toutes ces fins qui n'ont pas de fin, justement, et qui ont tant d'histoires à nous raconter. Il y avait... Très bonne remarque, je trouve, je vais juste la retrouver, voilà, de Stéphane Rollet, justement, dans le numéro sur le pilote et la chute, qui disait ceci, que les séries inachevées, en cela, regorgent davantage de possibles, puisqu'elles peuvent explorer encore, évidemment, d'un point de vue de l'imaginaire, plein de possibles. Et c'est quelque part ce qui se passe aussi dans Caprica, puisque même s'il y a une certaine résolution, il reste tout un espace encore vide que seule l'imagination peut ici remplir pour le compléter. Alors, c'est aussi, et c'est pour ça que j'avais choisi ce titre dans un premier temps, une symphonie narrative, puisque toute la séquence est musicale, je pense que vous l'avez entendu, et la musique prend de plus en plus d'ampleur. Alors le compositeur ici, c'est Beer McCreary, qui est le compositeur aussi de Battlestar Galactica et qui s'occupe d'un certain nombre de séries aujourd'hui, comme The Walking Dead par exemple. Il fait un travail vraiment, vraiment très très intéressant, et il a un blog aussi où il explique justement comment il fait. Il explique son travail sur cette séquence, et en fait ce qu'on entend, donc, c'est des nappes de musique qui vont augmenter progressivement à chaque fois qu'on change de scène, donc à chaque fois qu'on change de lieu ici, et il mélange différents thèmes qu'on a déjà entendus dans la série, et à chaque fois on a cette espèce d'ajout sonore, cette espèce de montée puissance du son qui vient accompagner tout ce qu'il joue ici. Donc il y a évidemment une dimension cathartique, le but c'est de faire ressentir ici des émotions, puisqu'on a suivi tous ces protagonistes, et voilà, c'est la fin, donc on est en train de mettre un point final à leur histoire. Donc plus on avance, plus ça devient émotionnellement fort, et là où c'est, je trouve, extrêmement aussi brillant, c'est que lorsque le personnage de Zoé, du coup cette fille qui revient à la vie, réapparaît, on pourrait s'attendre à une sorte d'apothéose musicale, pour paraphraser le titre, justement, alors que... Si vous vous en souvenez, ce qu'on entend quand elle revient à la vie, c'est un violon extrêmement mélancolique qui tourne à ce moment-là et qui évoque davantage la tragédie à venir que cela engage, plutôt que quelque chose de positif, bien évidemment. Le titre de morceau qui est composé s'appelle « The Differently Sentient ». Je ne le dis pas très bien, excusez-moi pour mon accent. C'est un terme qui est employé dans cette séquence par la terroriste qui dit à un moment donné « Je veux faire reconnaître toutes les sensibilités, en fait, l'existence de toutes les sensibilités », évoquant que les robots sont des êtres vivants qui doivent être considérés comme tels et pas comme des esclaves. Et c'est, je crois, aussi là une réflexion justement sur cette question-là, sur toutes les sensations qu'on peut ressentir par rapport à une fiction qui sont évoquées. Et elle fait une sorte de discours pour les reconnaître comme des choses réelles qui existent vraiment. Je crois que lorsqu'on a suivi toute une série, pour ceux qui ont eu cette occasion, le ressenti qu'on a n'est pas artificiel, mais est réel quand il est émotionnel. Alors, je m'intéresse du coup maintenant à la toute fin de Caprica. Le pilote s'ouvre en fait sur cette image, c'est la raison pour laquelle je l'ai placé ici, donc la vision de cet univers, de cette planète, avec le titre évidemment de la série, et puis de l'univers fictionnel. Souvenez-vous de ce plan, on va le revoir après, voilà comment s'achève la série, cette fois-ci avec la planète, donc nous sommes dans une vue avec un travelling avant qui nous ramène légèrement vers cette planète, qui forme du coup un cercle, le motif du cercle qui est récurrent dans Battlestar Galactica, puisque c'est l'idée que l'histoire se répète sans cesse, donc la figure circulaire comme ça de l'histoire, qui est évoquée aussi ici, et qui fait appel, dans la mémoire du téléspectateur qui connaît peut-être Battlestar Galactica, a une image très emblématique de la série parce qu'elle est tout le temps dans le générique, donc on la revoit à chaque épisode, qui est la destruction justement de Caprica par les robots sous la forme d'un holocauste nucléaire. C'est l'image de droite que vous pouvez apercevoir. Donc du coup, c'est une série qui à la fois essaye de construire la mémoire passée d'une autre fiction, tout en créant son propre discours sur ces questions-là, et qui, n'ayant pas eu la possibilité finalement d'avoir cette seconde saison qui était esquissée, essaye de quand même proposer une fin sous cette espèce de montage clipesque extrêmement rapide. Et cette notion de clip aussi, elle est intéressante, puisque finalement, lorsque les séries sont acculées, on pourrait dire à une fin, elles utilisent souvent le registre du clip pour s'achever. On a parlé de Six Feet Under, tout à l'heure on parlait avec Claire d'une ancienne série qui s'appelle Highlander, qui fonctionnait sur le même principe, mais on pourrait en citer... The Wire aussi, qui a été cité tout à fait ce matin. Et c'est intéressant de se dire que, justement, pour se finir, la série fait appel à un langage qui est télévisuel, puisque qui vient du clip vidéo véritablement. Le cinéma a repris ce langage-là récemment, d'ailleurs, plus tôt. Mais ce langage, initialement, vient de la télévision. Et donc, c'est comme si la série essayait de se terminer avec le médium avec lequel elle est attachée, qui est évidemment la télévision. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir comment on a recours à un langage qui est télévisuel, parce que souvent on dit c'est une série qui ressemble à un film, c'est une série filmique et tout. Moi j'aime pas trop ces termes-là, parce que j'ai la sensation, en tout cas personnellement, qu'il n'y a aucun mal à ce qu'une série essaye d'être sérielle. Et elle n'a pas besoin d'être revendiquée comme un film ou comme étant cinématographique, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, pour avoir de la valeur. La série et le cinéma sont deux choses passionnantes, mais qui ne sont pas nécessairement faits pour être comparés ou reliés dans tous les points de vue, on pourrait dire. Donc voilà pour cette séquence de Caprica qui m'a semblé passionnante à analyser, parce que voilà, c'est un work in progress, on pourrait dire. Je travaillais dessus, mais je vais continuer à travailler dessus pour ce qu'elle évoque, pour finalement sa figure un peu synthétique des autres fictions qui n'ont pas eu de fin et qui étaient un peu coincées dans un autre deux, et la manière dont finalement assez astucieusement elle propose quand même une forme de conclusion narrative, tout en laissant une grande porte ouverte à une suite qui aurait pu être évidemment possible avec cette fin. Je terminerai d'ailleurs juste sur quelque chose, petit bonus on pourrait dire, parce que je trouve cette série vraiment passionnante à la fois pour les thématiques qu'elle a abordées d'un point de vue du terrorisme, d'intelligence artificielle, et comme je vous le disais, ce qui se passe dans cette série, c'est qu'il y a un monde virtuel qui est créé dans lequel chacun peut accéder grâce à une sorte de lunette qui vous connecte à cet univers, et j'avais envie de terminer sur ça, puisque je trouve qu'actuellement c'est justement plus que jamais d'actualité cette question du virtuel, de la création d'un univers virtuel, avec le motif aujourd'hui de ces lunettes dans lesquelles vous pouvez interagir avec justement ce que Caprica appelle « the V-world », c'est-à-dire le monde virtuel, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute.
Je vais remplacer Philippe.
Oui, bien sûr, je t'en prie.